Déambulation.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rddwa.fr. Bienvenue dans une émission qui parlera des fouilles préventives archéologiques menées par les archéologues de l'INRAP à l'occasion des travaux de réaménagement du cœur historique de Die. En effet, depuis 2 mois, les Diois ont pu observer ces fameuses fouilles préventives, mais de derrière les balustrades. Certes, des rumeurs circulaient sur d'éventuelles découvertes, mais rien de très précis. Jusqu'au 5 et 6 février, où l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, organisait des journées découvertes pour présenter aux Diois le fruit de leur travail. En 2 jours, plus de 300 Diois, scolaires compris, manifestèrent leur grand intérêt pour ces vestiges du passé, bravant neige et boue pour écouter les explications savantes et passionnées des archéologues Christine Ranco, Christelle Fraisse, ainsi que celles du conservateur du musée de Die et du Diois, Jacques Planchon. Mais écoutons-les plutôt parler de leur découverte.
On a une élévation en terre quand même sur ce mur et de l'autre côté des enduits peints antiques conservés, on est à peu près au second siècle. Donc c'est ça qui est fabuleux parce que l'élévation en terre c'est déjà extrêmement rare, en conservé en l'état, mais en plus avec encore la décoration d'enduits peints en place sur à peu près 80 cm à 1 mètre. Donc le Jacques a fait prélever, là, donc une plaque complète avec tout le décor du bas et puis tout le restant effondré. Donc c'est des couches successives d'enduits qui sont tombées et on va pouvoir restituer sur donc à peu près 4 mètres de long, je pense, le décor probablement du sol au plafond, plafond inclus. Donc c'est ça qui est fabuleux, on a ce genre de décor, on a sorti donc ces petites fleurs qui doivent marcher dans le même système de panneaux que les oiseaux. Là c'est des sortes de candélabres qui s'ouvrent un petit peu comme ça. Et là on a des fleurs, là des oiseaux, je pense que les oiseaux sont plutôt à la base des candélabres et les fleurs au sommet. On a des guirlandes de fleurs comme ça qui se rattachent, des petites guirlandes avec des petites fleurs toutes mignonnes, qui s'attachent avec des petits nœuds qui pendouillent et probablement au niveau du nœud, on a des masques qui sont suspendus comme celui-là. Donc avec des personnages, la personne qu'on a contactée, le spécialiste des enduits peints, Julien Boisselève, nous mentionne probablement ce genre de personnages associés avec des motifs floraux, associés à Bacchus. Donc fabuleux quand même, hein, pour un pays de vin, c'est merveilleux. Et puis ce petit personnage-là qui est une sirène, donc un personnage qui est moitié femme, moitié oiseau, comme les sirènes d'Ulysse, hein, c'est vraiment les sirènes antiques, les sirènes poissons sont les sirènes médiévales, donc iconographie médiévale. Et tout un jeu de panneaux comme ça successifs qu'on va pouvoir restituer, oui, du sol au plafond. Et en plus, là où c'est doublement intéressant, c'est qu'en plus des murs, on a aussi les plafonds conservés, en partie, alors beaucoup moins bien conservés que les murs, parce que c'est simplement des niveaux d'argile creux. Donc on a la chance d'en avoir quelques-uns qui ont brûlé, donc qui ont cuit, et où on a quand même des parties conservées, avec probablement des caissons, des décors de rectangles ou de carrés, ce bleu sur fond jaune. Et on a des parties rouges aussi qu'on n'a pas encore réussi à vraiment intégrer dans le décor. Donc là, maintenant, on a tout un travail. Bon, d'abord de prélèvement, on en a encore énormément à prélever. Là. On a dépassé la centaine de caisses comme celle-là. Pas toutes de la qualité des petits oiseaux, malheureusement, mais on a quand même d'extrêmement belles caisses. Donc maintenant, on va, je pense, avec la partie qu'on a sortie, on va finir par une bonne dizaine de mètres carrés d'enduits restituables et une grosse étude derrière de remontage, étude iconographique. Donc ça, c'est vraiment, et ce qui touche au premier abord, c'est l'état de conservation qui est exceptionnel. Et alors on a des parties un petit peu moins bien conservées quand même, il en faut, mais l'intérêt de ces enduits, c'est que comme ils sont tombés face décorée dessous, du coup, il y a moins eu d'infiltration d'eau et ils sont extrêmement bien conservés.
Ça date de quel siècle ?
On est au second siècle, à peu près, donc oui. À la fois pour le style, on est vraiment dans le second siècle, c'est la période faste de la période romaine, le second siècle. Les éléments qu'on a pour la datation, on va pouvoir confirmer. On a une monnaie sur le niveau de sol. On a aussi les fragments de la charpente brûlée qui vont nous permettre de faire des datations carbone 14 pour confirmer tout ça. L'abandon, plutôt, je pense, début 3e siècle, à confirmer.
Mais, et donc, ça correspond à l'histoire
C'est déjà un habitat privé, a priori, ce genre de décor. Oui, privé, mais richissime quand même. Hein. Après, on a très peu d'informations sur le bâtiment lui-même, puisqu'on n'a qu'un tout petit bout de mur. Donc, on va se lancer avec Jacques, peut-être une visite des caves aux alentours. Je pense que ça serait peut-être sympa d'aller visiter un peu, la cave de la maraudinerie. Là, oui, on va essayer. Donc, bon, là, pour l'instant, on est vraiment dans l'urgence, donc prélever déjà tout ce qui reste d'enduit et puis après on va réfléchir un petit peu à tout ça. La fonction du bâtiment, bon, habitat privé c'est sûr, la taille de la pièce, tout ça, ça va être difficile de le donner.
Habitat privé c'est sûr.
Oh oui, je pense que cette qualité de décor, c'est rarement associé à des bâtiments publics. Donc privé, je pense qu'on peut, bon, on confirmera, mais à mon avis, on ne prend pas beaucoup de risques en l'affirmant dès maintenant. Après, c'est aussi le principe un petit peu de l'archéologie de sauvetage, c'est que nous, on a apporté une pièce au puzzle, une belle pièce quand même. Après, au gré des aménagements, si un jour il y a quelque chose de particulier qui peut apporter une autre information et nous permettre de recaser nos enduits dans un contexte plus général. Et puis, il y a toute une étude après documentaire, de replacement, d'études topographiques de la ville, pour essayer d'avoir une vision un petit peu moins rétrécie que nos petits enduits. Essayer de replacer ça dans le contexte général pour avoir vraiment une idée du quartier antique. Bon, après, on a encore quelques sondages profonds qu'on va faire sur ce côté de la place au niveau justement des plantations qui vont être effectuées de ce côté. On a la tranche 2 des travaux, mais qui va être plutôt devant la sous-préfecture prévue pour cet automne. Donc tout ça, petit à petit, va apporter d'autres informations. Et puis, à vrai dire, on venait surtout principalement pour le cloître et le bâti 17e. On se disait, bon, bah, l'antique c'est plus profond, on ne le verra pas. Et puis à la sortie, donc maintenant,
surprise, moi,
c'est largement plus que ce qu'on osait même pas espérer. Donc après, ben, toutes les possibilités sont là maintenant. C'est vrai qu'il ne faut jamais négliger, enfin l'expérience nous a appris que même sur des toutes petites surfaces, on peut avoir des choses magnifiques. Donc il ne faut jamais négliger une fouille, quelle qu'elle soit, même si elle n'est jamais idéale, parce qu'on peut toujours avoir des informations magnifiques. À part ces enduits antiques, on a aussi tout un corps de bâtiment 17e, on a ici hein, tout ce corps bâtiment donc, qui vient s'installer contre le cloître, probablement à son abandon. Le cloître, c'est donc le mur qui est ici, qui est le gros mur qu'on a juste devant, qui s'installe probablement au 12e siècle, en même temps que l'état 12e de la cathédrale, qui est abandonné au 15e siècle et utilisé comme cimetière entre le 15e et le 18e siècle. Donc on en a fouillé une toute petite bande, hein. Du coup on a évité pas mal de sépultures, ce qui est peut-être pas mal parce que ça n'apporte pas des renseignements sur une toute petite surface comme ça qui nous permettent une vraie étude de population. Et donc et c'est quand même très long et fastidieux à fouiller. Donc pour cette partie-là, par contre, on a quand même pas mal d'informations sur la liaison qu'on pensait entre le cloître et le clocher-porche qui en fait ne fonctionne pas du tout. Enfin, il n'y a pas de liaison directe entre le cloître et le clocher-porche. Il faut passer sur les portes qui sont ouvertes dans la nef, mais il n'y a pas du tout de liaison directe. Donc ça, c'est quand même une information qui n'est pas négligeable. Et puis tout ce bâti, donc 17e, qui vient s'installer contre. La première maison, qui est celle-là, en fait, qui est celle qui est encore conservée, qui est présente sur le terrier de 1595, quand même. Donc, antérieure à 1595, qu'on vient probablement après la destruction du cloître, et tout de suite derrière. Donc elle est constituée de deux pièces. On a deux pièces, dont, enfin, on est au niveau des caves. Donc, dont une qui a une superbe cuve à vin, ici celle-là, c'est la cuve à vin qui est là, qu'on voit là derrière, là, en coin, là-bas. Donc une cuve à vin qui fait 4,5 m quand même, donc voilà, carrelée. Donc là aussi, on a fait des prélèvements sur le carrelage. C'est un carrelage qui semble quand même assez ancien, et 16e, ça choque pas. Donc la cuve est mentionnée dans un bail en 1660, où le propriétaire de la maison cède le bail, mais se garde la jouissance de la cuve et des tonneaux. Un monsieur qui savait vivre, sûrement.
Bah, c'est toujours.
Donc oui, on est quand même un pays de vin depuis longtemps. Hein. Donc avec le système d'évacuation, récupération du vin et du mou, enfin voilà, tout ce système-là qu'il va falloir qu'on étudie. Parce que à chaque fois, ce qu'on trouve sur le terrain, on enregistre un maximum d'informations. Et puis derrière, on a le travail de bureau, en quelque sorte, où je vous avoue que les cuves à vin du 16e, c'est pas ma spécialité du tout. Donc là, il va falloir potasser, réfléchir. Pour se renseigner aussi, c'est aussi l'intérêt de ce genre de visite. Ce matin, il y a un monsieur qui nous a expliqué la raison du double trou qu'on ne comprenait pas. On a un trou plus gros ici et un trou plus petit en dessous. Il nous dit, mais c'est normal, parce que quand on récupère la lie, on a besoin d'un appel d'air. Donc voilà, donc ça, on n'en avait aucune idée. Donc là, on a tout un travail, justement, où il va falloir qu'on se renseigne, il va falloir qu'on fasse des recherches d'archives aussi. Donc pour ça, on avait aussi un superbe escalier dans cette partie-là, donc dans l'autre bâtiment, qui lui n'est pas présent sur le terrier de 1595, mais qui vient s'accoler contre, donc qui doit être plutôt 17e que 16e, je pense, et qui se permettait de desservir la cave de cette maison, qui a aussi sa cuve à vin, mais plus reprise, avec un carrelage beaucoup moins ancien que celui-là, et puis qui desservait aussi la cave de la maison qui est de l'autre côté. On a 4 ou 5 maisons, elles sont présentes sur le cadastre napoléonien, là, c'est la série de bandes rouges. Il y en a même probablement plus. Ici, dans cette partie-là, on en a repéré quand on a suivi, parce qu'on jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe dans les tranchées de nos voisins. On avait encore des caves pratiquement. Il nous reste juste une bande de 3 mètres entre la façade du Café de Paris et le corps de bâtiment qui est ici. La partie qui est plus visible sur le cadastre napoléonien est déjà démolie début 19e. Et la dernière maison, donc la plus ancienne, celle qu'on a encore ici, est démolie en 1880. On a même une photo de l'élévation, ce qui est fabuleux. Moi, j'avais jamais fouillé un truc, on a la photo de l'élévation. Donc, ça va nous permettre justement de voir ce qu'on a en sous-sol et de réfléchir justement sur les accès, sur les portes. On a justement 2 arcades et voir comment fonctionnent ces arcades par rapport à la cuve, par où on amène le raisin. Enfin, on va avoir tout un système de réflexion qu'on n'a pas tout le temps. Et c'est ça aussi qui est fabuleux parce que, en plus des enduits, on a quand même toute l'historique de toute la place depuis le second siècle jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai travail. Et puis l'avantage, c'est dès qu'on touche sur des périodes modernes, 15e, 16e, on a des textes. Donc ça, c'est chouette parce que justement, ça nous permet d'étayer nos hypothèses, de compléter. Quand on a cette cuve, on se dit, elle a l'air plus ancienne que l'autre, mais quand on a une mention en 1660, on sait que la cuve existe en 1660. Ça marche avec les observations qu'on fait sur le terrain, où on voit bien que cette cuve, elle est construite d'un seul tenon, en même temps que les murs, il n'y a pas de reprise, ça a l'air assez ancien. Donc tout ça, c'est une série d'éléments qu'on rapporte à chaque fois, donc, et qui permettent une compréhension générale. On a aussi, pour la période moderne, ça, tout ça, qui se situe dans cette partie-là de la place, là sur le côté, une série de trous de poteaux. Donc on s'était posé la question sur le cadastre napoléonien, on a une petite... anomalie, il y a un truc devant la cathédrale, on se demandait ce que c'était un petit peu ce truc-là. On pensait un calvaire, possiblement. Et en fait, ça correspond à cette série de trous de poteaux qui est localisée exactement à cet endroit-là. Et après réflexion, on s'est dit que ça pouvait être simplement la potence. Donc on a probablement plusieurs états de potence. On peint sérieusement. Entre, oui, fin 16e siècle, apparemment, il y a des textes justement... Jacques Planchon a des collaborateurs qui nous ont trouvé des textes justement avec il y a une dizaine de personnes pendues par an entre 1580 et 1590 en gros à la louche hein. donc ouais, quand même pas mal. Et la dernière pendaison mentionnée devant la cathédrale, donc sur la place devant la cathédrale, en 1745. Donc voilà, donc là aussi on a tout un travail de recherche, d'archives, d'essayer de retrouver d'autres fouilles de potence, parce que c'est une chose, enfin j'en avais jamais vu non plus. Donc tout un travail de bibliographie, d'études pour voir comment ça pouvait être construit et d'iconographie. Après tous ces enduits, donc nous on a un gros travail là. On les emmène au fur et à mesure dans nos locaux à Valence parce qu'il faut des conditions de séchage quand même particulières hein, pour les enduits peints. Pas trop les brutaliser, les laisser le moins possible à la pluie et au froid. Et puis après, on va avoir un travail de remontage, consolidation, ça va être. Et puis présentation à terme, à long terme quand même, je pense, ça va prendre un certain temps chez Jacques là-bas.
Et retour
à Dieu. Ça ne sera pas dans l'année, on va dire.
Quelques années.
Oui, je pense que c'est quelques années. Oui, parce que là, ça va demander quand même d'abord un gros travail d'études. Et puis une recherche de financement qui devrait pas être négligeable quand même. Parce que ça prend énormément de temps et c'est quand même un travail, la restauration, un travail de longue haleine. Et il ne faut pas se rater parce que le but est quand même de préserver tout ça. Donc si nous, on les sort, qu'on en tire quelque chose et que derrière, il n'y a pas de restauration et que ça finit par tomber en poussière, ça serait dommage. Donc c'est tout un travail de toute une chaîne qu'on démarre tout juste. Donc voilà.
Et sur les enduits, il y a des. Ce qui a pu être retrouvé par ailleurs en France, est-ce que dans d'autres régions, est-ce qu'il y a des décors qui sont similaires?
Alors, c'est pas ma grande spécialité non plus, mais je me suis renseignée. Là j'ai un énorme bouquin sur les enduits peints, je l'attends. Donc on va potasser un peu. La personne qu'on a contactée, oui, c'est des décors assez classiques quand même. Hein. C'est l'avantage un petit peu du monde antique, oui, c'est que c'est le début de l'uniformisation. Donc que ce soit en céramique, on copie quand même beaucoup le modèle romain. Et
en même temps, on n'a rien inventé maintenant. Hein. Il y a toujours l'effet de mode et de
style. Pareil. Et à partir de la période romaine, c'est vraiment ça. C'est vraiment des modes Et il fallait que les riches propriétaires, même des provinces reculées, entre guillemets, du Loing, aient le même décor que les riches villas de Rome ou de Pompéi ou des grosses villes romaines. Donc du coup, c'est assez classique. C'est pareil pour la céramique. On a des modèles standardisés qui nous rendent bien service pour les datations. Donc c'est le genre d'ensemble qu'on connaît assez bien. Pour vous dire, la personne à qui on a envoyé à peu près ces quatre photos-là. Il nous a dit, ben, c'est des guirlandes qui se rejoignent avec des nœuds, les masques qui pendent, les décors du plafond. Enfin, on a déjà globalement une idée de ce qu'on a. Les plus beaux décors d'enduit peint connus dans la région, c'est Vienne. Pour l'instant, parce que
oui. Dit, alors.
Maintenant, oui, je pense que Guy va rentrer dans une référence régionale, oui. Ça incontestablement, oui, oui. Là, sur ce coup-là, oui, oui, ça va faire partie des enduits majeurs, de régionaux, voire
nationaux.
Ah, je pense que oui, parce que des ensembles comme ça, on n'en voit pas tous les jours. On en a trouvé récemment à Trémontay en Auvergne, pas de cette qualité-là. Hein. Non, quand même.
Et il y a l'hôtel de ville de Châtillon en Diois aussi, qui sont des enduits peints.
Non, mais c'est des enduits
qui datent
du
17e, fin 17e.
Oui, c'est joli aussi, c'est autre chose. Il y a quand même de très belles choses sur le patrimoine riche. Et c'est vrai que l'intérêt aussi de ces constructions en terre, c'est que quand les murs en terre s'effondrent, du coup, ça fait un énorme apport de remblais, de terre, qui protège vraiment les vestiges qui sont en dessous. Et comme on a tendance, maintenant on le fait moins depuis l'invention de la pelle mécanique, mais au Moyen-Âge en particulier, à la place de déblayer pour reconstruire au même endroit, on avait plutôt tendance à remblayer, à planir et construire par-dessus. Donc du coup, ça nous sauve un peu la vie. Et là, c'est extrêmement bien conservé. On est entre 1,50 m et le niveau de sol qui va avec, on est à 2,80 m par rapport au niveau de la place. Le sommet des enduits, oui, c'est à peu près 1,50 m et donc on en a sur un gros mètre d'épais.
Donc c'est le soubassement des pièces.
Oui, on a vraiment la partie basse, ce qui est déjà bien parce que on n'a pas toujours l'élévation. Souvent on se retrouve ras les pâquerettes, quand on a le sol déjà on est content, quand on a 1 mètre d'élévation comme ici...
Là, vous êtes arrivé au niveau du sol romain.
On l'a déjà sur la première partie. Oui, on l'a pas en photo, mais alors c'est un sol, ce qu'on appelle un sol de terrazzo. C'est simple, non, pas de mosaïque, pas de décor particulier. Ça aurait pu être un sol de marbre. On a trouvé énormément de plaquettes de marbre dans les remblais, des petits fragments de plaques de différentes couleurs. Donc, il devait y avoir des décors en marbre. Pour ce sol-là, c'est juste ce qu'on appelle un terrazzo. C'est simplement un béton, donc lissé avec des petites incrustations de gravier dedans. Donc d'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal parce que la mosaïque en plus des enduits, ça allait devenir très très chaud.
Non, mais là, on aurait été dans une découverte exceptionnelle.
Peut-être, je n'ose pas dire le mot. Oui. Non, quoi qu'il arrive, même si on ne peut pas parler de découverte exceptionnelle parce que juridiquement, c'est un autre problème, c'est ça le. C'est ce qui empêche le mot exceptionnel, mais c'est quand même exceptionnel.
Les ébahis badauds férus d'histoire se succédant en groupe compact tout au long de cette journée froide, neigeuse et boueuse du 6 février avaient la possibilité d'obtenir d'autres informations sur différents aspects de la fouille auprès de plusieurs personnes, donc l'archéologue de l'INRAP Christelle Fraisse et Jacques Planchon, conservateur de musée de Die et du Diois.
Vous n'avez pas fouillé très profondément en fait?
Non. Parce que ce que j'expliquais, en fait, là, les travaux d'aménagement de la place ne vont pas très profond. Ils ne vont pas au-delà d'un mètre de profondeur. Donc les vestiges qui sont en dessous sont protégés, ne sont pas en danger. Donc ce n'est pas la peine d'aller les fouiller. Ils sont aussi bien là où ils sont. Hein. Donc là, nous, on ne va que sur les niveaux qui vont être touchés par l'aménagement de la place.
Donc dans 200-300 ans, on regardera encore, quand la place sera fatiguée.
Peut-être, ouais. Tant mieux.
D'accord.
Tant mieux. C'est ça, l'archéologie préventive, ça fonctionne comme ça. Non, je pense pas.
De savoir qu'il y a encore plein de choses à découvrir en dessous, là.
Oui, voilà. Si on devait tout fouiller, ça serait énorme. C'est, je sais pas combien de temps.
Du 19e siècle.
Oui, tout à fait. Depuis le 19e siècle, ça a évolué, les méthodes et tout. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir... Voilà, parce qu'à l'époque, on travaillait différemment, on avait des méthodes différentes. L'archéologie, c'est une science qui progresse, donc...
Des fois, ça doit être frustrant quand même.
Des fois, mais bon.
En même temps, ça veut quand même dire que ces vestiges vont disparaître, puisqu'ils vont être touchés par la reconstruction.
Ils ne vont pas être touchés.
Dans la mesure où on est allé fouiller jusque là où...
ils vont être touchés, on sait que les travaux ne vont pas au-delà, ils ne vont pas dessous. Donc, il n'y a pas de souci.
La cuve, par exemple,
elle va être détruite.
Ou elle va être recouverte, là. Mais nous, en tant qu'archéologues, nous, on détruit. Des fois, on a des murs du Moyen-Âge. Pour aller voir ce qui se passe dessous, on détruit. Du moment qu'on fait de l'archéologie, on détruit les vestiges. Sauf on le fait pas n'importe comment. Nous, au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez vu les collègues travailler, tout est photographié, tout est dessiné. Là, les murs ont été dessinés, c'est pierre par pierre. On a des fiches, etc. Mais des fois, on y va, nous, à l'appel, on détruit. Hein. Du moment que vous dégagez le site, c'est ce que je disais, vous le mettez à l'air libre, il s'abîme. Nous, sur un chantier de 2 ou 3 mois, on voit bien que les murs s'abîment. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux que les sites, s'ils ne sont pas endangés par l'aménagement, ils sont aussi bien dans le sous-sol. Hein.
L'idée, c'est, en tout cas, c'est pas de préserver à tout prix. Là, on va regarder ce qu'il y a, on va trouver des traces de l'histoire, et puis après, on fait nos chantiers, on continue à construire dessus.
Oui, on n'est pas là pour interdire que la vie continue, quoi. Par contre, avec la loi de 2001, ça permet de pouvoir fouiller correctement. C'est ça qui est bien avec la loi de 2001 de l'archéologie préventive. Quoi. Avant l'aménagement, on fait la fouille.
C'est obligatoire.
Bien.
C'est obligatoire.
Voilà. Oui, c'est une loi.
Vous ne savez pas ce qu'il y a.
Si, on a fait le diagnostic avant. On est intervenu, donc on sait ce qu'il y a. Donc, du moment qu'il y a un aménagement, les archéologues vont intervenir. Donc ça, c'est bien.
Et les fameux escaliers sont où alors?
Ils sont la roue arrière de l'appel.
Donc du coup, c'est pour ça que là aussi, ils vont détruire une bonne partie sur ce secteur-là. Enfin, toute la partie qui n'est pas recouverte en pavé va être détruite en partie haute, de façon à éviter les points durs.
D'accord, donc c'est la dernière fois qu'on les voit, quoi.
En gros, oui.
On le voit et puis c'est terminé.
Après, c'est fini.
Donc ça vous chagrine pas de casser ce qui y fut?
Alors, ça nous chagrine, oui, bien sûr, mais on s'y habitue, sinon on change de boulot. C'est quand même assez habituel.
Ah oui, de casser au fur et à mesure que vous découvrez.
Alors, de toute façon, la fouille est destructrice. Quand on les regarde, là, enlever les éléments d'enduit peint, au fur et à mesure qu'ils enlèvent les éléments, ils détruisent les vestiges tels qu'ils étaient conservés en place. Même si c'est pour les conserver différemment ailleurs, n'empêche qu'on détruit au fur et à mesure tout ce qu'on fouille. Ça ne sera plus jamais tel que c'était. Donc la fouille est destructrice.
C'est l'histoire qui passe, quoi.
Sauf que nous, quand on le fait, on note au fur et à mesure ce qu'on détruit, on garde le maximum d'informations, alors qu'une pelle mécanique prend très très peu de notes en faisant le même travail. Beaucoup plus vite, certes, mais voilà. Donc la grosse différence, c'est ça, c'est que nous, on détruit, mais on note au fur et à mesure, on documente et on garde en mémoire, on conserve, on stocke. Alors que si on laisse faire les travaux tels quels, c'est détruit, mais personne ne l'a vu et personne ne pourra jamais en témoigner. On est les témoins du passé.
Et là, l'autre jour, il sortait un squelette, non?
Là-bas, j'ai vu. On en a un qui est un peu spécial, parce que c'est le seul qu'on a trouvé devant la cathédrale. Puisque le cimetière était surtout vers l'arrière, et c'est agrandi vers l'avant au fur et à mesure. Mais devant la cathédrale, on n'en avait absolument aucun, sauf un adulte et un enfant qui, manifestement, ont été enterrés en même temps dans la même tombe. Alors, on ne sait pas s'il y a un cercueil ou pas, mais en tout cas, ils sont ensemble dans la même fosse, ça c'est sûr. Donc là, il y a certainement un épisode un peu dramatique et très particulier, parce qu'on leur réserve aussi un emplacement très particulier devant la cathédrale, alors tous les autres sont enterrés derrière.
Ouais.
Pour ces deux squelettes-là, ils vont être prélevés par un anthropologue expert, parce que bon, autant les autres sépultures, c'est classique, des gens tout seuls,
là, ils vont essayer de les dater un peu.
Là, comme il y a quelque chose de vraiment particulier, on a envie d'avoir des renseignements, enfin le plus possible renseignements. Donc le prélèvement va être fait de façon minutieuse par un anthropologue qui est capable immédiatement de comprendre tel os, comment ça marche, enfin, est-ce qu'il y a des marqueurs familiaux entre les deux. Non, déjà, s'il y a des marqueurs familiaux dans les déformations osseuses génétiques, entre les deux squelettes, est-ce que c'est un père et son fils, ou une mère et sa fille, ou l'inverse,
rien à voir,
ou est-ce qu'ils ont rien à voir, et dans ce cas-là, bon. Mais voilà, il faut que ce soit un anthropologue qui s'occupe de cette partie du travail. Pour le reste, en général, on prélève nous-mêmes. Mais là, c'est quand même très particulier.
On voit les soubassements de la cathédrale qui descendent encore assez profondément, hein. C'est pas fini, ça descend encore plus bas?
Oui, ça descend encore plus bas. Donc, le clocher-porche, c'est là aussi très particulier, puisqu'il n'est pas fondé, il est posé sur un socle. Le socle s'enfonce dans la terre, mais le clocher est simplement posé dessus. C'est un mode de fondation qui est vraiment très particulier. Donc pour l'instant, on sait qu'il y a deux assises successives de gros blocs romains. Et par contre, on ne sait pas encore ce qu'il y a dessous. Alors si on a le temps, on fera sans doute un petit sondage un petit peu plus profond, juste devant l'entrée de la cathédrale. Pour savoir si on a la troisième assise de bloc, on descendra pas très profond parce que ça pose d'autres problèmes, mais on aimerait bien savoir un peu plus. Et puis surtout, on voit bien la différence entre le socle du clocher-porche du XIIe siècle et les fondations qui sont beaucoup moins bien faites des contreforts du XVe. Les contreforts qu'on a mis là quand on a reconstruit le clocher pour le renforcer, pour qu'en cas de prochain problème, il ait plus de mal à se casser la figure.
Mais ces blocs romains là, désignés, là, c'est du réemploi. C'était, ça ne correspond pas à un monument romain qui était en place.
Ils ne sont pas dans leur position romaine. Ouais, ils sont dans leur position médiévale. Mais par contre, ils ont été récupérés sur des monuments romains. On a des blocs avec des moulures, des bouts de pilastres cannelés. Enfin, il y a tout un tas de blocs qui correspondent à une architecture romaine, mais qui ont été récupérés et qui ont servi à construire le socle du clocher médiéval.
C'est comme les
remparts. C'est comme les remparts, comme les remparts, on les remparts aussi. Alors les remparts, c'est autre chose, parce que les remparts, c'est des remparts romains dans lesquels on récupère des blocs de monuments romains. Alors que là, c'est un monument médiéval dans lequel on récupère du romain.
C'est bien plus tardif.
Ah ben, la construction des remparts, on est autour de l'an 300 à peu près, donc en pleine période romaine.
Le début, ouais,
alors que là, on est vers 1180 par là.
Je crois que c'est l'inverse, qu'on avait réutilisé des vestiges romains pour monter les remparts.
Oui, mais c'est à l'époque romaine qu'on utilise des vestiges romains pour monter les remparts. Bah, l'époque romaine, ça dure 6 siècles ici. Hein. Donc on a le temps de monter, démonter, redémonter, etc. Quoi.
Et la pièce voûtée là, elle est datée de combien? Parce que c'est du béton qu'il y a ou c'est du coffrage
C'est de la chaux, ça.
C'est de la chaux coffrée.
Le ciment, c'est à partir de la fin du 19e.
D'accord, donc là on est
avant, on ne travaille qu'avec de la chaux.
On n'a que de la chaux.
Mais par contre, la chaux s'utilise exactement comme le ciment. C'est-à-dire on fait un coffrage, on coule dessus, on met des blocs, etc.
Donc c'est les mêmes méthodes depuis.
Même méthode, simplement la chaux a une prise moins rapide que le ciment.
Ouais.
Donc dans le cadre de nos économies actuelles, on préfère le ciment à la chaux parce qu'il faut que ça aille vite. Très vite. Voilà. Mais sinon, non, c'est les mêmes méthodes de construction.
Pendant des millénaires, on a utilisé
la voûte bonchée comme celle-là, c'est cette technique qui a servi à fabriquer le Parthénon à Rome au IIe siècle.
D'accord. La même méthode bonchée.
Même méthode. Ça.
D'accord.
Alors, ils ont fait ça un peu plus classe parce qu'ils ont mis en place des coffrages avec des caissons. Enfin, c'est un peu architecturé, quoi. C'est de la monnaie nature.
C'est la même méthode.
Là, c'est juste, on voit les traces de planches. Mais techniquement, c'est la même méthode qui est utilisée au IIe siècle pour le Parthénon et là pour la cave du XVIIe à Die.
Ok. 17e celle-là.
Oui.
D'accord. Je pense qu'il y a la même chose dans ma cave et je me disais ça devait être fait récemment, mais pas forcément. Mais,
alors celle-là est 17e, mais à partir de ce mur qu'on voit ici, on a la cave du 16e là.
Oui.
Mais avec une voûte qui a exactement la même technique de construction.
Oui, bah pendant des millénaires, c'était les mêmes techniques. Quoi.
Et puis la voûte de la cathédrale, avant que les protestants s'énervent dessus en 1582, était aussi avec la même technique de construction, mais celle-là était du 12e, 13e. Et puis les voûtes des aqueducs de Die romains sont avec la même technique. Et on voit les traces de planches, là, pour le coup. Parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre un truc classe dans un aqueduc, etc. Dans la technique de voûte branchée, c'est vieux.
On apprend tous les jours.
Alors après, l'aspect de la chaux dépend de sa fabrication, d'abord. Quel type de pierre on va calciner pour fabriquer la chaux? Est-ce que c'est vraiment de la chaux pure? Ou quelles sont les inclusions qu'on met dedans? Quel type de sable? S'il est gris, s'il n'est pas gris? Est-ce qu'on balance de la cendre pour lui donner un petit peu d'étanchéité ou pas? Parce qu'on peut aussi essayer de faire d'étanchéité à la cendre dans la chaux. Et tout ça va donner un mortier de chaux d'une couleur ou d'une autre. Mais c'est pas parce que c'est gris que c'est du ciment et que c'est récent.
Ouais, parce qu'on dirait vraiment un coffrage béton
c'est un
récent,
coffrage.
Quoi. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre la profondeur et la date?
Sur le principe, oui. Et dans la pratique, pas vraiment. C'est-à-dire que bah là, par exemple, on a un bon exemple. On a des caves du 17e, avec un niveau de sol du 17e au fond des caves, qui est donc à 2,50 m, 2,60 m de profondeur, d'un côté de la place. De l'autre côté de la place, on a des vestiges romains, avec un niveau de sol romain qui est à 2,80 m.
C'est le bas, donc, hein. Là, c'est le bas. Hein.
Le bas, c'est tout au fond. Là. Donc si on se base sur les hauteurs de niveau de sol, on a 20 cm d'écart entre le romain et le 17e siècle. Sauf que là, c'est un sol de cave d'un côté, et là, c'est une surface de circulation aérien de l'autre. Donc voilà.
Ça veut dire que ça, c'était le niveau normal.
Ça, c'était le niveau normal de déplacement d'Andy à l'époque romaine. Là, on est dans une cave au XVIIe siècle. On est à peu près au même niveau. Mais par contre, après, la différence de niveau entre le niveau actuel et le niveau romain, ou le niveau médiéval, ou le niveau préhistorique, dépend du nombre de choses qui se sont déposées par-dessus. Donc s'il y a peu de dépôts, parce qu'on est dans un point haut par exemple, et qu'il n'y a rien qui dégouline dessus, et qu'il n'y a pas d'inondation, etc., on peut avoir 10 cm dans lesquels on contracte 90 000 ans de
sédimentation.
Ouais. Et puis là en ville, à Die, on a entre 1,30 m et 2,80 m de dépôts sur les niveaux antiques. Les niveaux médiévaux du cloître sont à peu près à 1m10, 1m20 de profondeur. Et c'est vraiment très très variable. On parlait de... Là, cette maison s'est effondrée, probablement avec un incendie. Et donc on voit qu'il y a, plus d'un mètre de dépôt. D'un coup sec, c'est les murs en terre qui s'effondrent. Et ça fait 1m20 de remplissage qui est resté en place. Bon. Là-dessus, on rajoute un tremblement de terre en 1443. Un certain nombre de maisons s'effondrent et on repart pour 80 cm de sédimentation d'un coup, en quelques heures. Et bon, ben voilà, si on en empile comme ça les uns derrière les autres, ça finit par monter beaucoup. En ville, ça monte très vite, de toute façon, en général. Après, dans la campagne, ça va moins vite. Un exemple simple, à Ponté, la villa romaine, qu'on a fouillée il y a 3 ans, les niveaux de sol romain sont 30 cm en dessous du niveau actuel. Désolé pour la cloche.
Et nous continuerons cette déambulation en récoltant les paroles de quelques Diois, dont Monsieur Berginia, maire de Die.
Monsieur Berginia, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces travaux? Vous êtes content des trouvailles pour le rayonnement de Die, par exemple?
C'est assez extraordinaire tout ce qu'on trouve, parce que, comme les archéologues nous l'expliquent, sont sur un territoire, un espace assez petit. On retrace 2000 ans d'histoire. Et dans une conservation exceptionnelle. Et on voit bien d'ailleurs, les Diois ne s'y trompent pas, ils viennent voir, ils posent des questions, ils sont contents de voir leur sous-sol. Je suis aussi assez content de voir que malgré toutes ces découvertes, le chantier ne perd pas de temps. On reste dans le timing qui était prévu et on peut se féliciter de l'étroite collaboration entre les chercheurs, l'entreprise EFAGE qui travaille, la mairie et les commerçants qui sont très patients malgré leurs difficultés dues aux travaux. Donc je trouve que c'est un chantier qui pour l'instant se déroule très bien et on peut s'en féliciter.
Vous m'avez un peu court-circuité parce que je voulais vous poser justement la question de savoir si d'aventure, s'il trouvait quelque chose de faramineux, il pourrait éventuellement retarder les travaux sur cette place, etc. Et comment vous auriez pris la chose?
Pour l'instant, si vous voulez, on a trouvé des choses assez exceptionnel dans leur conservation, dans leur date, puisqu'on parle de 1800 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Je pense qu'on risque quand même de... Pardon. On risque de ne pas trop trouver d'autres choses. Mais ça, c'est déjà très exceptionnel. On a donc agrandi la partie où il y a des choses qui semblent exceptionnelles pour bien le fouiller complètement. Et quitte à gagner ce temps-là sur d'autres parties où il y a manifestement moins de choses à découvrir.
Monsieur Berginia, merci.
Merci.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez des fouilles archéologiques qu'il y a sur la place de la cathédrale?
Eh bien, je pense que c'est une bonne obligation parce que cela nous permet de renouer avec notre passé. Et un certain nombre de choses ont été trouvées. Je suis en train d'écouter l'exposé que fait la personne, l'archéologue qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé un certain nombre de périodes, y compris romaines, avec des éléments suffisamment importants pour qu'ils puissent avancer sur des recherches et nous dire dans quelques temps, parce que tout ça mérite réflexion, analyse et étude, puisse nous dire un petit peu comment les choses se sont passées sur cette place, ce qu'il y avait avant la cathédrale. Et ça, moi, ça me passionne, ça m'interroge. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Parce qu'il y avait d'autres choses avant cette cathédrale. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir renouer avec son passé, parce que je pense qu'il nous permet d'envisager notre avenir.
Merci. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Ça vous fait quoi alors ces fouilles? Ça vous fait quelque chose?
Rien du tout.
Je vous crois qu'à moitié.
Si, c'est très très intéressant. Les découvertes là qui sont faites par l'INRAP me fascinent sur déjà leur qualité. On peut s'apercevoir sur les photos la qualité des enduits découverts avec les peintures qu'on a l'impression qu'elles sont d'hier. Et c'est vrai que c'est quand même fascinant. Ça nous rappelle notre histoire. Qui est pas si lointaine en fin de compte.
Et ça vous fait pas regretter de ne pas investir plus de moyens pour aller fouiller encore plus profondément pendant des années encore?
Non, on peut pas tout faire. Et puis c'est vrai que la place maintenant elle va être aménagée, donc il faut laisser la place après aux aménageurs pour faire quelque chose de joli et qui rentrera aussi dans l'histoire future.
Ouais. Merci monsieur.
Au revoir.
Monsieur, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors vous êtes là sous la neige, c'est parce que ça vous intéresse quand même ces travaux?
Oui, absolument. Donc c'est pas tous les jours qu'on peut la découvrir et pour la première fois des restes aussi anciens. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine de subir quelques flocons pour pouvoir assister à ça.
Vous êtes intéressé en général par l'histoire?
Oui, mais enfin là, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, donc on vit à Die, et c'est dans notre environnement immédiat, donc on n'y est pas indifférent.
Ça vous permet de replacer Die dans une perspective peut-être?
Bah, oui, c'est sûr que enfin, déjà, Die n'a pas l'air d'une ville nouvelle, mais c'est bien de pouvoir faire du lien, ancrer dans l'histoire l'endroit où on vit.
Merci monsieur.
Je vous en prie monsieur.
Monsieur bonjour.
Salut.
Alors qu'est-ce que ça vous fait ces fouilles sur la place de la cathédrale? Ça vous interpelle?
Oui, ça nous interpelle, mais ce qu'on regrette aussi c'est qu'elles n'aillent pas plus profond, qu'il n'y ait pas de moyens qui soient mis en œuvre et qu'on attende encore 300 ou 400 ans pour trouver autre chose quoi. Mais sinon c'est une très bonne chose de le faire, même si c'est une obligation pour la mairie, ce qui a été énormément critiqué. Ils ne pouvaient pas passer à travers, et donc c'est très bien que ça se fasse.
Donc vous êtes curieux, vous auriez aimé en savoir plus?
Bien sûr, oui, c'est le but du jeu aussi. Hein.
Et ce qu'ils ont découvert, en quoi ça vous parle?
Déjà, les trous de potence, tout ça, on ne connaissait pas du tout l'existence, il y a un tas de choses. Mais les petits brins de mosaïque qu'ils ont trouvé l'autre jour, les peintures, les très belles peintures, la conservation des peintures, c'est incroyable. Quoi. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Qu'on arrive depuis... 18 siècles à garder des peintures intactes et que nous, maintenant, avec le peu d'enduit qu'on a, ça tient pas longtemps. Quoi. C'est vraiment grandiose. Quoi. Voilà.
Merci, monsieur.
De rien.
Et nous terminerons ce sujet sur les fouilles préventives menées par l'INRAP dans le centre historique de Die en récoltant les paroles de deux commerçants qui sont éminemment concernés par ces travaux puisqu'ils sont sur la place de la cathédrale et toujours en activité. Je veux parler des deux boulangeries, la Rouge et la Bleue.
Allez, dans la foulée, je vais interviewer un certain nombre de commerçants de la place du marché pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent de ces travaux. Je vais commencer par Sophie Ligeon de la boulangerie-pâtisserie Nougatine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces travaux et de ces fouilles archéologiques?
Eh ben, c'est compliqué, les fouilles archéologiques. Hein. C'est des choses qui sont obligatoires. J'ai eu pas mal de temps, malheureusement, pour discuter avec les archéologues qui ont pu me parler de tout ce qu'ils ont, etc. Donc, c'est... Moi, j'ai la chance d'être le référent, donc je suis quand même beaucoup au courant. Les gens me parlent et je peux voir avec le monsieur de chez Eiffage, avec les archéologues. Et ils m'ont expliqué ben, que c'est des choses qui sont obligatoires. C'est même pas, on ne peut même pas dire ben, c'est la mairie, machin. Non, non, c'est des choses qui sont obligatoires. Ben, l'avantage, c'est qu'ils ont trouvé des jolies choses. Donc ça, c'est le côté positif. Hein. Ils ont trouvé un joli mur, vous avez dû en entendre parler, avec des fresques, des dessins. Et là, tout dernièrement, ils ont trouvé cette... On s'appelle une amphore en c'est quoi? C'est de la fonte, hein, je crois.
Du bronze.
Du bronze, pardon. Ouais. Donc, c'est un gros coup. Hein, je crois que c'est 700 000 euros hein, de fouilles archéologiques. Hein. Mais voilà, c'est obligatoire et ben, c'est bien. Dans le Divo, on est riche, on a trouvé des jolies choses. Donc, ça atténue un peu le côté négatif de l'impact, quoi.
Ah, parce qu'il y a un côté négatif sur votre commerce, ouais, sur ces travaux?
Oui, au niveau du chiffre d'affaires, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il a été mal évalué au départ, hein, parce que là, moi, je suis à moins 30% sur mon chiffre de janvier. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc, c'est pas tellement... nous, on a un commerce, on a réinvesti, donc on a des charges, on a des prêts remboursés. Donc, ouais, c'est un peu cata.
Parce que c'est pas fini, cette histoire?
Non, c'est pas fini, mais bon, là, en fait, j'ai le bar qui est fermé depuis un mois et demi, qui est à côté de moi. Donc, il faut dire que, ben, que je travaille beaucoup moins en traiteur, en viennoiserie, etc. Donc, cet impact, elle est énorme. Hein. C'est 50% de mon chiffre. Hein. Donc, et le passage, c'est pas tellement le parking en lui-même. Parce qu'il y a quand même des accès. Ils ont fait des efforts sur les accès. Mais le fait que les gens passent plus dans ce coin-là, c'est pas un commerce qui fait une rentabilité. Hein. C'est plusieurs commerces. Les gens viennent pour plusieurs commerces. Et donc là, le problème, il est là.
En espérant que la pilule passe quand même.
Oui, merci beaucoup en
Allez,
tout cas.
Au revoir.
Bonne journée.
Après la boulangerie bleue, la boulangerie rouge. Sylvain, Roland, bonjour.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces fouilles archéologiques?
C'est-à-dire qu'on n'a pas franchement le choix. Enfin, nous, en tant que commerçants, tous ceux de la place, puis même tous ceux de Die, on est régulièrement allés à la mairie, bien en aval. Depuis déjà 2 ans, on a commencé toutes les réunions, etc., pour voir ce qu'il allait en être, quoi. Et c'est les fouilles archéologiques sont quelque chose qui est maintenant obligatoire pour tout, dès qu'il y a des travaux dans une zone dans une zone rurale, comme ça, les fouilles archéologiques sont obligatoires dans n'importe quelle ville, quoi. Donc ça, c'est clair qu'on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas les travaux, parce qu'il y a beaucoup de commerçants que ça arrangeait pas, et qui seraient passés juste d'un nouveau revêtement éventuellement sur la place, de remettre les toilettes en état, etc. Ça, on n'a pas réussi à l'obtenir parce que, c'était pas de notre pouvoir de décision. Donc maintenant, les fouilles sont, on est obligé d'y passer, quoi. Et du coup, on essaie de faire avec, même si on s'en serait en effet bien passé, vu que c'est pas ce qui nous arrange le plus d'être bloqué pendant des mois en plus, quoi.
Mais au point de vue de ce qu'ils ont trouvé, ça vous passionne pas ?
J'en ai parlé un peu, j'ai vu quelqu'un qui était au musée, enfin voilà, c'est toujours intéressant, mais après, en tant que néophyte, c'est pas quelque chose qui me passionne. Il y a d'autres choses qui m'intéressent bien plus que ça, en effet, quoi.
Vous avez constaté une baisse de votre chiffre d'affaires, là ?
Depuis... le mois de décembre, les gens n'étaient pas encore trop habitués, donc ça allait parce qu'ils essayaient encore de venir dans le centre. Là maintenant, plus ça va et plus les gens se sont cassés le nez quelques fois sur le fait qu'ils ne pouvaient pas se garer, sur le fait qu'ils devaient faire des demi-tours, sur le fait qu'ils rayaient leur voiture, parce que j'en ai vu quelques-uns, que ce soit ici, enfin voilà, partout entre tous les travaux qu'il y a. Et là, notamment tôt le matin et puis en fin de journée, il y a beaucoup moins de gens qui perdent plus leur temps à essayer de venir dans le centre, sachant qu'ils vont devoir tracer leur route, vu qu'ils ne pourront pas s'arrêter, quoi.
Bien, monsieur Roland. Bon courage et merci.
Merci bien, bonne journée.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en espérant que cette émission vous aura plu. Il reste néanmoins frustrant de savoir qu'il existe encore tant de trésors qu'on ne prendra pas la peine de chercher avant la prochaine réfection de la place. C'est pas grave, mais on s'en remettra. À bientôt, au revoir.